1058, donc 1058e Bargerus, humanité trop humaine. Alors, le manque d'intérêt passe l'individu de la modernité, donc de la modernité, j'entends par là, c'est, on le voit encore plus avec l'individu de la modernité qui utilise le matériel, l'occidentalisation, en quelque sorte. Donc le manque d'intérêt passe l'individu de la modernité, voire l'humanité des temps ancestraux, ça a toujours été ainsi, à ne rien faire, tant qu'il n'y a rien à gagner. Bon, s'il n'y a rien à gagner, je ne travaille pas et je ne perds pas de temps. Ça, c'est une logique qui est absolument capitaliste, donc qui peut, quand c'est pour le travail, bon, il y a une excuse, mais c'est pas de ça que je veux parler, c'est de justement pas forcément en lien avec le travail. Donc, or, mais où est donc or? Dans un manque d'intérêt porté à une entité vivante ou bien matérielle qui va finir par se débrouiller, cette entité. Ou alors, si c'est un matériel, se faire récupérer. Genre, il y a un truc qui est cassé, moi tu le prends pas parce que ça sert à rien. Tu vas pas perdre ton temps à le réparer. Mais si ça s'est récupéré et puis arrangé pour être utilisé, et ça peut souvent arriver que ce soit récupéré dans un... Et qu'après tout le monde le veuille, tellement c'est bien arrangé. Bon, bref. Si donc je reprends, dans un manque d'intérêt porté à une entité vivante, donc là on laisse tomber quelqu'un et en fait cette personne se débrouille, ou matériel comme je disais, qui va se débrouiller, se faire récupérer, par un temps délaissé. À l'origine, c'est un temps qui est... Alors, tu ne veux pas perdre de temps, alors tu délaisses le temps. Tu vois, tu pourrais prendre le temps de retaper la chose ou de t'occuper de la personne, de l'aider, en quelque sorte, pour qu'elle se sente mieux. Mais non, tu fais pas. Lorsque ce temps ou cette personne se fait récupérer par un autre temps... se récupérer par un temps délaissé, celui du manque d'intérêt par une personne. Donc là, je crois que je vous en mets la tête. En fait, bon, quand ce que je veux dire, on va y arriver.
C'est très confus, Johnny Dubac. C'est très très confus. Essayez de trouver un exemple que nous comprenions. Moi, je ne comprends rien. Je ne comprends rien, cher Johnny Dubac. Rien du tout. Faites un effort.
Ce que je veux dire, c'est que... Vous avez compris, je crois. Mais je vais le dire quand même. quand on arrive à se débrouiller, à récupérer l'objet, l'individu qui ne voulait pas perdre de temps va se trouver être dépassé. Oui, dépassé. Par le temps qu'il aura pris la peine de délaisser. Qui en revanche, ce temps qu'il n'aura pas pris pour arranger la chose ou aider la personne, a été utilisé par une personne qui est non interchangeable. Car c'est des individus changeables entre eux, interchangeables entre eux, que l'occidentalisation fait son nid. La matérialité, le besoin, la nécessité... illusoire du matériel. Donc, je ne gagne rien. J'ai un exemple. Bon, un exemple. Donc, tu te promènes dans la rue ou tu es à ton bureau ou à la maison et je ne gagne rien avec cette personne. Je ne veux pas en entendre parler. Elle se débrouille. Or, O-R majuscule, cette personne qui se débrouille va se débrouiller et en plus... consciemment ou inconsciemment, débrouiller, arranger celle qui ne voulait pas perdre de temps avec elle. Et ça c'est le chapeau, quoi. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Ouais. Vous comprenez? Ah, je trouve ça génial. Oh non, lui, laisse tomber. Et en fait, le mec, ou l'objet. Bon, vous avez compris. Je tourne en rond là, mais c'est.
Said good morning, but it made me mad, cause I was evil, evil hearted me. I'm just downright evil, evil as a man can be. Well, she even cooked my breakfast, and she brought it to my bed. I took a sip of coffee and threw the cup at her head, because I was evil. I'd rather see you dead and laying in your grave, cause I'm evil, evil hearted me. I'm just downright evil, evil as a man can be. From now on, and the girl I loved had never been born, because I'm evil, evil hearted me. I'm just downright evil, evil as a man can be. I don't even care if my baby leaves me flat. I've got 11 others. If it comes to that, you know I'm evil. Happy, well, God Almighty, sing this verse. I can't sing no more. Put your man in your bed, put your husband down on the floor. That's a proper place to be.
Donc on a pu écouter A Vile Heart Me. Ça, je trouve ça colle vachement avec le truc, quoi. Je reviens encore, hein, mais tu. Quelque chose, tu laisses tomber la chose, tu dis non, elle en vaut pas la peine, je n'ai aucun intérêt à aider cette personne. Et en réalité, cette personne va se débrouiller, et en plus, elle va aider la personne qui lui a dit débrouille-toi. A vile hurt me. Donc, le mal m'a fait du bien, en fait. Mais ça, c'est le mec qui. C'est l'individu qui dit bah non, débrouille-toi, en fait. Le A vile hurt me. Qui parle, me fait du bien au cœur, quoi. Donc, avec ironie ou non, Friedrich Nietzsche, dans les deux volumes que j'ai là, de Humain, trop humain, s'emploie à mieux connaître l'homme, qui vient nous certifier, dans tous ses écrits, que là où le temps est dénié, comme je disais, quand on ne peut pas perdre de temps, quand il n'y a pas d'intérêt à gagner, l'individu interchangeable demeure. Là, c'est sûr que si, tant qu'il reste interchangeable, comme les autres, disons, si je peux me permettre, il éprouvera toujours un désintérêt. Enfin, il perdra pas de temps, disons, à des choses qui n'ont pas d'intérêt direct pour lui ou pour elle. Tandis que ici, là, maintenant, dans la barge russe que je vous donne, où le temps est récupéré, la singularité de la personne existe et perdure. Donc, je dis dans la barge russe parce que moi, je pense que je suis comme ça. Et je ne suis pas le seul. Afin de développer le temps qui justement est délaissé par des individus qui, ouais, c'est sans intérêt, alors je laisse tomber. Eh ben non, on récupère ce temps et on le change et pam, on lui remet en pleine tronche, quoi. C'est fort. Très fort. Donc maintenant, je vais lire quelques passages de Humain, trop humain de Nietzsche. Alors, j'ai un exemple qui est pas mal, c'est l'exemple du chien. Pour le sortir, pour aller faire ses besoins. Tu te dis, il n'y a pas d'intérêt à sortir un chien. Ça fait chier. Moi, le premier, ça me fait chier de sortir le chien. Et surtout que je ne le voulais pas, ce chien. Bon, après, c'est encore une poussée occidentale. Il fallait avoir un chien après le premier confinement parce que tout le monde en avait un. C'était bien d'en avoir un. Alors, ben voilà, on a acheté un chien. Ah oui, mais ça sert à rien. Un chien, ça sert à rien. Et donc, bah, qui c'est qui s'en charge? C'est Bibi. Et donc, il faut que je le sorte. Et ça me prend la tête, des fois. Mais quand tu planches un peu plus là-dedans, ça me permet de faire des rencontres. Ça me permet, bon, bah, de prendre l'air. Ça me permet beaucoup de choses, de se sortir au monde. Et c'est ça qui est important, c'est que tu crois qu'il n'y a pas d'intérêt direct à sortir le chien, mais en réalité, il y a tout un truc maintenant dans le quartier où je vis, bah, tout le monde connaît mon chien et bah, me connaît par la suite. Parce que je suis toujours avec ce chien. Et bah, le fait, bon, c'est pas de la célébrité, mais t'es connu. On te connaît, quoi. T'es pas connu, mais on te connaît. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, bah, les choses viennent. Et toi, par exemple, si un jour t'as besoin d'un coup de main, bah, ça va se faire tout seul aussi. Voilà, c'est ça que je vais vous expliquer. Humanité trop humaine. Donc non seulement on fait des rencontres en faisant un truc qui n'a pas d'intérêt, et secondement, indirectement, enfin plutôt directement, on fait du bien au chien. On fait du bien à un être vivant. Et tout ce que ça enchaîne, quoi. Et c'est pour ça sûrement qu'on fait des rencontres, et des fois on fait des bonnes rencontres. Rencontres ou autres. Et j'insiste, mais la vie est ainsi. Donc, je vais commencer par le volume 1 de Humain, trop humain de la collection que j'ai. C'est la collection Méditation. Bon, c'est l'édition, peut-être Méditation. Non, de Noël. Bibliothèque Médiation de Noël Gontier. Voilà. Donc, pas de dedans et de dehors dans le monde. Voici le nom du petit passage par Friedrich Nietzsche. Ça date de 1910. Pas l'ouvrage, mais la date d'édition par de Noël. De même que Démocrite, donc le pré-socratique, transportait les concepts d'en haut et d'en bas à l'espace infini, où ils n'ont pas de sens, ainsi les philosophes en général transportent le concept de dedans et dehors, à l'essence et à l'apparence du monde. Ils pensent que par des sentiments profonds, on pénètre profondément dans l'intérieur, on se rapproche du cœur de la nature. Mais ces sentiments sont profonds seulement en tant qu'avec eux, d'une façon à peine sensible, sont régulièrement excités certains groupes complexes de pensée que nous appelons profonds. Un sentiment est profond parce que nous tenons pour profondes les pensées qui l'accompagnent. Mais la pensée profonde peut néanmoins être très éloignée de la vérité, comme par exemple toute pensée métaphysique. Bon, ça c'est juste. Bon, c'est beaucoup de... il parle beaucoup pour pas dire grand-chose. Il reste le sentiment fort et celui-ci ne garantit pour la connaissance rien que lui-même, tout comme la croyance forte ne prouve que sa force, non la vérité de ce que l'on croit. Donc c'est pas, ça veut dire en un sens que c'est pas parce que le mec croit mordicus en ce qu'il avance, ça, je pense que ça nous arrive à tout le monde, le mec est sûr de lui, et en fait il a tort. Voilà, c'est ça qui veut dire ici Friedrich Nietzsche. Donc plus loin maintenant, donc bah, c'est la page suivante. Non. C'est la page d'après en fait. Et on va aller... Enfin non. Donc là, c'est apparence et chose en soi. Le numéro 16. 16e article de Humain, trop humain, de Friedrich Nietzsche. You know, baby. Contre cette idée, on doit, en prenant le concept du métaphysique exactement pour celui de l'inconditionné, conséquemment aussi de l'inconditionnant. Tout au rebours, nier toute dépendance entre l'inconditionné, le monde métaphysique, et le monde connu de nous. Donc le côté invisible et la réalité. Si bien que dans l'apparence n'apparaissent absolument pas la chose en soi, dans l'apparence ça cache énormément de choses, et que toute conclusion de l'une à l'autre soit à repousser. C'est sûr, on ne peut pas se fier aux apparences. Voilà ce qu'il dit. C'est devenu peu à peu ce qu'il est, même est encore entièrement dans le devenir, et par cette raison ne saurait être considéré comme une grandeur stable. Ouais. De ce monde où la représentation, la science sévère, peut effectivement délivrer seulement dans une mesure minime, quoique cela ne soit pas d'ailleurs à souhaiter, par le fait qu'elle ne peut rompre radicalement la force des habitudes antiques de sentiment, mais elle peut éclairer très progressivement et pas à pas l'histoire de la genèse de ce monde comme représentation, et nous élever, au moins pour quelques instants, au-dessus de toute la série des faits. Peut-être reconnaîtrons-nous alors que la chose en soi est digne d'un rire homérique, qu'elle paraissait être tant, même tout, et qu'elle est proprement vide, notamment vide de sens. Et là, si on reprend l'exemple que je vous donnais du chien. On promenait le chien, alors bon, l'apparence, ça dépend, il y en a qui vont trouver ça cool, d'autres pas cool, d'autres ça va les embêter au fond d'eux. Ça va les embêter au fond d'eux, et ça va se voir sur leur apparence. Et justement, c'est là qu'il faut... Quand ça joue pas sur leur apparence, on va les voir, ils vont être contents de promener le chien, mais on peut pas se fier à ça. On peut même pas, si le mec il est content, on peut pas savoir si au fond de lui il est content de promener le chien, ou il a une autre bonne nouvelle au fond de lui. Il sait qu'il faut promener le chien pour être bien. Ou alors s'il est de mauvaise humeur quand il promène le chien, on sait pas si c'est parce qu'il veut pas promener le chien ou parce qu'il a eu une mauvaise nouvelle. Mais cela étant dit, ça veut dire qu'il ne fait pas la conjonction entre « bon, j'ai reçu une mauvaise nouvelle, mais bon, si je promène le chien, ça ira de mieux en mieux », en faisant des choses comme ça, comme promener le chien, qui sont sans intérêt direct. Voilà. Pas mal. On va continuer par le petit article numéro 54, « Le mensonge ». Pourquoi la plupart du temps les hommes dans la vie de tous les jours disent-ils la vérité ? Bon, je leur lis parce que c'est sympa quand même la façon dont il dit. Pourquoi la plupart du temps les hommes dans la vie de tous les jours disent-ils la vérité ? Assurément, ce n'est pas parce qu'un dieu a défendu le mensonge. Non. Mais c'est premièrement parce que cela est plus aisé. Le mensonge exigeant invention, dissimulation et mémoire. Voilà pourquoi Swift dit « Celui qui énonce un mensonge se rend rarement compte du lourd fardeau qu'il s'impose. Il lui faut en effet, pour soutenir un mensonge, en inventer 20 autres. » C'est ensuite parce qu'en des circonstances simples, il est avantageux de parler franc. « Je veux ceci, j'ai fait ceci, et ainsi de suite. » Donc parce que la voix de la contrainte et de l'autorité est plus sûre que celle de la ruse, mais pour peu qu'un enfant ait été élevé dans des circonstances domestiques compliquées, il se sert tout aussi naturellement du mensonge et dit involontairement toujours ce qui répond à son intérêt. Un sens de la vérité, une répugnance au mensonge en soi. lui sont tout à fait étrangers et inaccessibles. Et il ment en toute innocence. Voilà. Ça, c'est les apparences, l'éducation. Tu vois, le mec, il voit pas l'intérêt. Ben, c'est aussi l'éducation qu'il a eue. Comment il a grandi. Comment, dans quel cercle, dans quel, pas cercle, mais dans quelles circonstances. Nietzsche, il a vraiment... Il est vraiment excellent. Mais oui, mais bien sûr. Ah, professeur Schmidli, comment allez-vous? Je me suis permis de présenter Humain trop humain parce que vous en avez parlé et vous disiez que vous allez lire et vous ne le faisiez pas. Donc moi, j'avais annoté, je l'avais lu il y a longtemps. Oui, bah, je vous remercie beaucoup. Allez-y, continuez, je vous en prie. Oui, allez-y. Bah, merci beaucoup, professeur Schmidli. Donc, il est sympa, le professeur Schmidli. Donc, je vais commencer. Oui, je vous écoute, je reste à côté de vous. Ça va très cher. Oui, merci. Donc, l'article 123, émiettement des églises. Il n'y a pas assez de religions dans le monde pour anéantir seulement les religions. Ça va... C'est pour réfléchir, ça. Il n'y a pas assez de religions dans le monde pour anéantir le dogme. Le dogme religieux, quoi. La croyance. Mais la religion est un fait humain. Humain, trop humain. Les religions, c'est un peu comme des carcans, c'est des intercalaires qui en réalité est la croyance en soi. Et en passant par des religions, le monothéisme, malheureusement, qui enlève le polythéisme, qui encore plus, on a l'impression que c'est des intercalaires, mais qui fait encore plus réfléchir sur soi. Et bien ça nous met dans des illusions et en fait ça nous range quoi. Et pour ne plus croire en soi. Donc, plus tu divises, c'est plus il y a de religion, plus c'est divisé quoi. Plus l'humanité est divisée. L'humanité est trop humaine. Ensuite, l'article 194, les fous de la civilisation moderne. Donc il doit écrire ça en 1880. Avec Nietzsche, aux alentours, les fous des cours, ou plutôt fin 1880, les fous des cours du Moyen-Âge correspondent à nos feuilletonistes. Ah ouais, j'ai pris ça, je trouvais ça bien, parce que lui, c'est les feuilletonistes, donc c'était par écrit, c'était des nouvelles que tu lisais, comme Proust, quoi, tu vois, ils envoyaient dans des magazines littéraires, ils font leurs histoires ont commencé comme ça, notamment pour Proust, mais tu lisais des aventures via des revues littéraires. C'était les feuilletonistes qui faisaient des histoires. Et bon, si on recale ça aujourd'hui, les feuilletons. Les feuilletons, les séries. Donc ce sont les feuilletonistes, ce sont les fous de la civilisation moderne. Donc ceux qui font les séries, les réalisateurs des séries. Qu'on juge avec plus d'indulgence si on ne les prend pas pour entièrement responsables. C'est pas entièrement de leur faute. Bah non. Non, mais ils incitent quand même à la... On va reprendre l'exemple de la violence. Oui. Par les séries, passe beaucoup... c'est un peu influencé autour de ceux qui regardent, des spectateurs. Mais bien sûr que pas tout le monde, mais ça peut. Si on ne les prend pas pour entièrement responsables, écrit Friedrich Nietzsche. Oui, c'est vrai que ça peut être totalement de leur faute aussi. Donc, considérer l'état d'écrivain ou de réalisateur comme une profession devrait, en bonne justice, passer pour un genre de démence. Donc, que les réalisateurs, ils sont déments, quoi. Mais non, parce qu'on leur dit, non, bah, c'est pas entièrement de votre faute. Ce qui est juste, c'est aussi de la faute, parce qu'il n'y a plus de croyance en soi-même. Il y a de la croyance, justement, en l'apparence, en les films, qui n'ont pas un but, forcément, à vouloir... manipuler les personnes, mais juste donner un extérieur de ses pensées en tant que réalisateur. Donc on a pu écouter Moonlight Sonata par Vanilla Fudge, un groupe psyché américain qui refaisait beaucoup de reprises des Beatles, d'ailleurs. Et là, sur le disque, il y a plusieurs reprises de Beethoven, dont celle-ci, Moonlight Sonata. Donc je continue avec cette fois le deuxième numéro de Humain Trop Humain, la suite de ce que je vous ai lu avant. Donc là, on va continuer par l'article 286. Dans quelle mesure l'homme actif est paresseux ? Alors je crois que tout homme doit avoir, sur toute chose où il est possible de se faire des opinions, une opinion propre. Oui, il faut qu'il croie en lui-même. Parce que lui-même est une chose spéciale. Exactement. L'individu lambda est une personne delta avant toute chose, que l'occidentalisation a gommé. Parce que lui-même n'existant qu'une fois, qui s'occupe par rapport à toutes les autres choses une situation nouvelle. Oui, tout est lié. Laquelle n'a jamais existé. Mais la paresse qui est au fond de l'âme de l'homme, c'est assez juste, l'homme actif l'empêche de puiser l'eau à sa propre fontaine. Ouais. T'as le truc qui est devant toi, mais tu refuses de lever tes fesses, quoi. Ta télécommande, elle a plus de pile et il n'y a plus de son. Et tu peux aller à ton poste et monter le volume. Mais non, tu vas demander à ton gamin, ah, va monter le son, ou qui que ce soit d'autre. Ou tu vas pas monter le son. Alors, il en va de la liberté des opinions comme de la santé. L'une et l'autre sont individuelles. De l'une et de l'autre, on ne peut poser une conception d'une valeur générale. Ce qui est nécessaire à un individu pour sa santé est pour un autre déjà une cause de maladie. Ce qui est nécessaire à un individu pour sa santé est pour une autre déjà une cause de maladie. Et beaucoup de moyens et de voies qui mènent à la liberté de l'esprit peuvent, pour des natures d'un degré plus haut de développement, être des moyens et des voies de dépendance. Ah, celui-là, il est bien. L'article 454. Les esprits dangereux parmi les révolutionnaires. Qu'on distingue ceux qui rêvent un bouleversement de la société en gens qui veulent atteindre quelque chose pour eux-mêmes et en gens qui le veulent pour leurs enfants et petits-enfants. Les derniers sont les plus dangereux, car ils ont la foi et la bonne conscience. Du désintéressement. Ils sont désintéressés, parce qu'ils disent, oh, c'est pour mes enfants, mes petits-enfants, en fait, ils s'en foutent un peu, quoi. Les autres peuvent être assouvis. Pour cela, la société dominante a toujours assez de ressources et d'habileté. Le péril commence aussitôt que le but devient impersonnel. Ouais, dès que ça ne te concerne pas et que tu te bats, tu luttes quand même, là, il commence à y avoir des risques de péril. Les révolutionnaires, par intérêt impersonnel, peuvent considérer tous les défenseurs de l'état de choses existant comme égoïstes et par là se sentir supérieurs à eux. Ah, sacré Nietzsche. Il est marrant, le petit gamin. Alors, ensuite... le 465, résurrection de l'esprit. Dans la maladie politique, un peuple se rajeunit d'ordinaire lui-même et retrouve son esprit qu'il perdait peu à peu dans la recherche et la reconquête du pouvoir. La civilisation n'est redevable à rien de plus qu'au temps politique. Faible. Ok. And to finish, yes, number 627, vie et aventure. Au pluriel. Quand on voit comment certaines gens savent s'arranger avec leurs aventures insignifiantes de chaque jour, de sorte qu'elles deviennent un terrain qui porte fruit trois fois l'an, tandis que d'autres, et combien, sont entraînés par les coups de mer des vicissitudes les plus houleuses, des courants les plus variés des temps et des peuples, et cependant restent toujours légers. Toujours à la surface, comme du liège. On est à la fin tenté de diviser l'humanité en une minorité, entre parenthèses, une minimalité, d'hommes qui savent faire de peu, beaucoup, et d'une majorité de ceux qui savent faire de beaucoup, peu de choses. Des hommes qui savent faire de peu, beaucoup, et une majorité qui savent faire de beaucoup, peu de choses. Bien mieux. on tombe sur des maîtres en sorcellerie à rebours qui, au lieu de créer de rien le monde, créent du monde un rien. Et ça revient vraiment à ce que je disais en début de Bargerus, quoi. Alors que tout est dans la croyance en soi, dans le fait, tiens, d'aller promener son chien, tout va être là-dedans, toute la journée. C'est un exemple, hein, le chien, bien sûr. Dans quelque chose, en tout cas. Qui paraît être un détail. Tout va être là-dedans. Et là, vu que l'occidentalisation, l'individu lambda va mettre ça aux portes du désintérêt total, eh bien, le monde devient à rien. Et rien, peut-être.
Actualité, philosophie, et je t'emmerde. Le mercredi en bimensuel.